100% d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour à tous. La crise migratoire aux portes de l'Europe se poursuit. Dans les forêts de Podlachie, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, ils sont toujours 4000, principalement venus du Moyen-Orient, des hommes, des femmes, des enfants, qui campent par des températures glaciales et sans aucune aide. Côté polonais, les forces de l'ordre à la frontière ont été multipliées, rendant tout passage presque impossible. La nuit dernière encore, une centaine de migrants a été interceptée par la police polonaise. Et du côté de Minsk, l'aide humanitaire tarde à venir malgré les appels de l'Europe. Des discussions techniques sur les rapatriements avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés devraient commencer dans les prochains jours. En attendant, notre correspondante Hélène Bienvenue s'est rendue dans un centre d'accueil pour réfugiés dans une ville polonaise tout près de la frontière biélorusse. Son reportage.
Mohamed, qui a préféré taire son vrai prénom, en grelotte encore. Ce Syrien de 37 ans témoigne depuis la cour de son centre d'accueil. Cheveux grisonnants, cet ancien comptable en Syrie vivait depuis 7 ans au Liban. Après l'explosion dans le port de Beyrouth, sa situation économique s'est détériorée et comme des milliers d'autres, il se laisse tenter par la perspective d'un passage facile dans l'Union européenne en transitant par le Bélarus.
Ils m'ont dit que ce serait comme des vacances avec 10 jours d'hôtel en Biélorussie, un visa, le billet d'avion, le package complet, tout ça m'a coûté 4 000 $.
Mais une fois arrivé à la frontière polonaise, le voyage de Mohamed prend un tout autre tour.
Quand je suis arrivé à la frontière dans la forêt, il y avait des soldats biélorusses. Ils m'ont frappé et m'ont cassé des côtes, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai marché jusqu'en Pologne. Les soldats polonais m'ont refoulé 3 fois. J'avais mal partout. J'ai passé 4 jours en forêt. Il faisait très froid. Les gens me disaient « Tu marches juste 6 km et tu arrives en Pologne. » Mais c'est vraiment difficile. Pendant 4 jours, je n'ai pas eu d'eau. Il n'y avait aucune équipe médicale sur place pour m'emmener à l'hôpital. J'ai eu l'impression que j'allais mourir. C'est le gouvernement biélorusse qui fait ça, mais c'est terrible, certaines personnes meurent en forêt. Et si je n'avais pas été sauvé par cette équipe médicale, je pense que je serais mort moi aussi.
Ces migrants se retrouvent bien souvent en étau, entre le Bélarus qui les pousse vers la Pologne et la Pologne qui les repousse au Bélarus. Car la Pologne a légalisé depuis cet été les refoulements grâce à des lois contraires aux conventions internationales. Même les migrants qui nécessitent une hospitalisation en Pologne sont renvoyés une fois rétablis, comme en témoigne Mohamed.
Quand j'ai vu des policiers, je leur ai dit « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un hôpital, j'ai très mal, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Ils ne m'ont pas aidé. Ils ont appelé des véhicules et m'ont ramené une nouvelle fois à la frontière.
Près d'une dizaine de personnes sont décédées d'hypothermie ou noyées des deux côtés de la frontière. Mohamed a bien failli en faire partie. Heureusement, son cousin a réussi à le mettre en contact avec des bénévoles déployés en territoire polonais pour aider les migrants en détresse.
J'ai parlé à une équipe médicale par WhatsApp. Une femme polonaise m'a demandé ma localisation et m'a dit « Ne bouge pas, ne bouge pas, je vais venir t'aider. Je suis si reconnaissant qu'elle m'ait sauvé et que l'hôpital m'ait sauvé. »
Mansour aussi a dû passer plusieurs jours dans les forêts sans s'alimenter et sans eau potable. Ce père de famille syrien, avocat, est logé dans le même centre d'accueil pour réfugiés que Mohamed. Il a également préféré taire son vrai prénom. Lui a quitté la Jordanie, où il vivait avec sa famille depuis 3 ans pour Dubaï, puis pour Minsk. Son fils de 14 ans et 2 amis l'accompagnent dans ce périple migratoire jusqu'en Pologne.
Après le premier jour, nous avions tout terminé. Plus de nourriture, plus d'eau. Et ensuite, nous avons passé encore 3 jours dans la forêt. Personne ne me l'avait dit. Mais moi, je le dirai à tous ceux qui me demandent. La route est très difficile et dangereuse. Car j'ai entendu que beaucoup de gens sont morts dans la forêt. Les gens sont morts, oui.
Anna Chmielewska, employée de la fondation Haute-Salénier, qui vient à la rescousse des migrants en détresse en Podlachie, à l'est de la Pologne, On appelle à ce que chaque situation individuelle puisse être examinée.
Je crois que ce qu'on devrait faire, c'est de laisser rentrer ces gens, de vérifier ce qui est vérifiable, de suivre les procédures et de décider si on octroie ou non l'asile.
De leur côté, Mohamed et Mansour ne souhaitent pas demander l'asile en Pologne. Ils n'y ont pas laissé leurs empreintes digitales. Leur famille, aux Pays-Bas ou en Autriche, devrait venir les chercher dans le centre d'accueil, un centre ouvert où ils résident actuellement. À terme, ils espèrent pouvoir demander l'asile en Europe de l'Ouest.
En Hongrie, le gouvernement nationaliste de Viktor Orban mène lui aussi une politique très hostile aux migrants et aux réfugiés. Il a construit une clôture de barbelés à la frontière, il a aussi mis en place un mur juridique grâce à une législation qui permet de rejeter automatiquement même les demandeurs d'asile. Mais, il y a une petite catégorie d'immigrés avec lesquels Viktor Orban n'a pas de problème, les riches étrangers. Entre 2013 et 2017, la Hongrie a ainsi accueilli plus de 20 000 riches non-européens à bras ouverts. Florence Labruyère.
Des visas en or, c'est le surnom de ces permis de séjour que le gouvernement Orban a vendu à des milliers de citoyens non-européens. Des permis très chers, il faut acheter des obligations de l'État hongrois pour 360 000 euros. En échange, l'acheteur reçoit un permis de résidence permanent en Hongrie pour lui et sa famille. Ce document permet de circuler dans toute l'Union européenne. Le Portugal, les Pays-Bas ou encore la République de Malte délivrent aussi des visas en or. Mais en échange, ces pays exigent d'investir ou de créer des emplois chez eux. Rien de tel en Hongrie, où l'étranger récupère sa mise au bout de 5 ans, moins une commission de 60 000 euros. Cette commission va aux sociétés offshore qui ont vendu le permis et qui sont liées au clan du Premier ministre hongrois. Autrement dit, le régime se fait de l'argent sur le dos du contribuable. Les dossiers des demandeurs sont filtrés par la police et les services secrets. Mais ce filtrage n'est pas efficace. La presse indépendante hongroise a en effet découvert que la Hongrie a vendu des visas en or à des malfaiteurs. Par exemple, le Syrien Atia Kouri, frappé de sanctions par les États-Unis car il a été le discret banquier de Bachar el-Assad. Kouri a notamment aidé le gouvernement syrien à acheter du pétrole à Daesh. La Hongrie lui a remis un visa permanent en 2017. De même, un haut cadre du FSB, proche de Vladimir Poutine, s'est vu octroyer un permis Schengen pour lui et sa famille. Entre 2013 et 2017, la Hongrie a vendu plus de 20 000 visas en or. Mais en 2018, sous le feu des critiques de l'opposition, les autorités hongroises ont dû mettre fin à cette pratique.
En France, avec les démantèlements systématiques des campements de migrants près de la ville de Calais et de Dunkerque, les contrôles renforcés sur les plages, les exilés descendent désormais plus au sud, sur la côte de Picardie, près de la baie de Somme. L'objectif, c'est toujours de traverser la Manche pour rejoindre l'Angleterre. Ces derniers mois, les forces de l'ordre ont ainsi assisté à une quinzaine de tentatives de traversée, pourtant difficiles à cet endroit-là, vu la distance à franchir jusqu'aux côtes anglaises. Le reportage de Lise Verbeck.
Si à Calais, on peut apercevoir les côtes anglaises par beau temps, dans la baie de Somme, impossible de les voir vu la distance de 80 km. Pourtant, les tentatives de traversée de la Manche à cet endroit se sont multipliées ces derniers temps et ce sont les sauveteurs en mer qui sont les premiers à intervenir. Début novembre, dans la baie de Somme, Jean-Marc Gamblin de la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Berck-sur-Mer et son équipe sont appelés à 3h du matin.
Alors on arrive sur zone avec une quarantaine de personnes dans un toujours le même type de bateau, des petits semi-rigides surchargés, qui là a tout l'avant des boudins percés, donc le bateau prend l'eau par l'avant, tout le monde a les pieds dans l'eau et ils sont extrêmement paniqués.
Il y a des femmes, des enfants, mais aussi une personne très malade. Les exilés sont sur ce bateau depuis plus de 7 heures, il fait nuit noire, le thermomètre affiche 3 degrés.
Il faut vraiment aller très très vite, on sait que derrière... Qui que ce soit qu'on va trouver sur l'eau, c'est des gens qui ont besoin de secours. Et donc, il y a des vies humaines qui sont en cause. Donc vraiment, on se dépêche énormément.
Agnès Vacron, sauveteuse bénévole.
Là, j'avoue que psychologiquement, c'est difficile de voir 40 personnes sur un bateau qui est à moitié flottant, qui sont en pleine panique. C'est difficile de discuter avec eux parce qu'ils parlent très très mal anglais. Voire pas du tout pour certains. On s'explique par gestes, donc c'est pas forcément évident. Ce qu'ils comprennent quand même, c'est qu'on ne peut pas tous les embarquer sur notre bateau. C'est impossible vu la taille de notre bateau. Et la panique est d'autant plus importante que finalement, ils ont peur qu'on les abandonne sur place. C'est pas facile de les rassurer et ça a pris un peu de temps pour qu'ils comprennent qu'en fait, on allait rester à côté d'eux jusqu'à ce que de secours de grande ampleur arrive.
Les sauveteurs interviennent de plus en plus souvent pour aider des migrants au large de la côte Picarde. Avec des opérations complexes, car les nuits de beau temps, les départs sont nombreux et les sauveteurs se retrouvent débordés.
J'ai rendez-vous avec M. Bailey.
La traversée de la Manche depuis la baie de Somme est encore plus dangereuse que depuis Calais. Alain Baillet est le maire de Fort-Mahon-Plage, une commune du littoral.
D'abord, la distance est encore plus longue. Et nous avons des courants entre la baie de Somme et la baie d'Oti qui sont assez forts. Ce qui se rendent vraiment compte du danger. On a l'impression que l'Angleterre est à la porte à côté, mais c'est assez loin. La mer est de temps en temps méchante. L'eau est pas très chaude et les climats peuvent les mettre dans des situations périlleuses où le bateau peut se retourner à n'importe quel moment. Sachant que sur des embarcations de 7-8 personnes, ils sont capables de monter à 30 ou 35 accrochés sur les boudins du canot pneumatique. Et là, c'est vrai que ça peut être très dangereux pour eux. Mais on peut comprendre lorsqu'on les voit sur les routes ou lorsqu'on les voit sur la plage, on se rend compte que c'est leur dernière et ultime chance, quoi. Voilà.
Depuis 8 mois, il observe avec ses collègues maires des communes voisines de plus en plus d'exilés arriver.
Bah, disons que tout le littoral, c'est des dunes en majorité, puisque nous, la station est faite sur des dunes depuis 1900. Aujourd'hui, c'est vrai que pour se cacher, oui, c'est très facile. Vous avez des forêts de pins, vous avez des endroits où il y a des coulées de sangliers ou des coulées que les chevaux, lorsqu'ils passent dans les dunes, donc ils essayent de se planquer à la vue des gendarmes. Mais il y a des centaines et des centaines d'hectares de massifs dunaires. Donc pour les localiser, c'est pas toujours évident, sachant qu'ils arrivent par les petits chemins où ils ont appris à découvrir notre région dans des endroits que même nous, on s'y aventure pas tous les jours. Mais eux ont appris à arriver dans les endroits les plus retirés pour se planquer pendant quelques jours, quelques soirs, en attendant le moment propice.
Des moyens ont été débloqués par l'État pour surveiller davantage la côte Picarde. Plus de patrouilles la nuit, mais aussi des drones qui observent les dunes et les plages.
Allez-y.
Et également la création depuis le mois d'août d'un poste à cheval permanent avec 4 chevaux et 8 gendarmes qui sillonnent le littoral. Ce jour-là, Vincent Guéné va patrouiller durant 2 heures.
Donc on fait plus de distance avec les chevaux. On peut aller dans des zones un peu plus compliquées qu'avec un véhicule gendarmerie classique, nous n'irions pas.
Comme quoi, dans les dunes ?
Dans les dunes, exactement, sur le sable, sur la plage, dans des sentiers qui sont accessibles vraiment soit à pied ou à cheval, du coup, c'est plus facile, parce que, comme je vous disais, on peut faire plus de distance. Avec un cheval, pour une patrouille, on va faire 15 à 20 km, alors qu'un individu à pied ne pourrait pas faire autant en si peu de temps, quoi.
Notre action avec les chevaux se faisant essentiellement, même exclusivement, de jour.
Le chef de poste, Nicolas Guillebeau.
Notre action est principalement préventive, on va dire, par la recherche de traces, d'indices qui pourraient laisser présager des départs à venir, quoi. On a découvert pas mal de petits matériels plutôt, gilets de sauvetage, des pompes pour gonfler, des zodiacs, ce genre de choses. Alors ça veut dire qu'il y a eu soit un départ par exemple qui peut avoir réussi, soit ça peut être une tentative de départ, ou alors, par exemple, du matériel qui peut être caché en prévision d'un départ.
Les contrôles sur les 70 km de côte du littoral Picard s'accentuent depuis ces derniers mois. La Grande-Bretagne a financé à hauteur de 530 000 euros des moyens supplémentaires, doublement des patrouilles la nuit, mais aussi des drones et des véhicules 4x4. Une autre enveloppe est en cours pour l'achat de caméras de vidéoprotection, notamment dans les ports des communes littorales, pour empêcher les vols de bateaux et de moteurs.
Avec nous en studio, Alice Rougeat, bonjour.
Bonjour.
Comme chaque jeudi, vous vous penchez sur la jeunesse européenne et cette semaine, vous avez choisi de nous parler des jeunes migrants.
Oui, parce que ça fait 3 mois maintenant que je m'efforce de représenter Comme je peux, près de 88 millions de personnes de moins de 30 ans, soit 2% de la population de l'Union. Au sein de ce groupe, loin d'être uniforme, j'ai envie de mettre l'accent aujourd'hui sur celles et ceux qui ne sont pas nés ici en Europe, mais qui ont migré pour diverses raisons.
Alors on pense tout de suite aux migrants dont nous parlions à l'instant dans l'émission, ceux qui tentent de rejoindre le Royaume-Uni depuis le nord de la France ou ceux bloqués en Biélorussie. J'imagine que parmi eux, beaucoup sont des jeunes.
Oui, certains d'entre eux sont même très jeunes. En Europe, en 2020, sur les 417 000 demandes d'asile, près d'un quart avaient moins de 18 ans et on estime que 10% d'entre eux étaient des enfants non accompagnés. Je parle de demandeurs d'asile et pas de demandes d'asile, excusez-moi. Comme leurs aînés, ils ont parfois traversé la Méditerranée. Certains y ont perdu la vie. Le chiffre est terrible, préparez-vous. Selon l'Office international des migrations, entre 2014 et 2020, 2300 enfants seraient morts ou disparus au cours de leur voyage migratoire.
En Italie, en Grèce, en Allemagne ou en France, qui sont les quatre pays qui accueillent le plus de demandeurs d'asile, ils connaissent, comme leurs aînés, une arrivée souvent difficile.
Quel que soit l'âge, être en situation irrégulière, c'est vecteur de souffrance, aussi bien physique que psychique, pression, précarité, problèmes de logement. Et forcément, les enfants et les jeunes sont encore plus touchés. Rien que la barrière de la langue. En France, 6,2% des élèves du primaire au lycée sont allophones, c'est-à-dire que leur langue maternelle n'est pas le français. Et s'ils sont inscrits à l'école, ils sont statistiquement moins nombreux à continuer le cursus au-delà du collège. Mais ce qui fait la jeunesse, c'est aussi sa force. Il y a une image qui est très belle, dont j'ai envie de vous parler. Un groupe de jeunes étrangers accueillis dans un foyer de Lausanne, en Suisse. Ils ont dessiné une fresque gigantesque sur la place de l'Europe, avec écrit « Never give up ».
Ne pas baisser les bras, le symbole est fort, d'autant que l'Europe a besoin de ces jeunes.
En fait, oui, l'Europe ferait mieux de les accueillir à bras ouverts. C'est ce que suggère le Center for Global Development après publication d'un rapport. Selon leurs estimations, le continent européen aura perdu 95 millions de travailleurs d'ici 2050, parce que la moyenne d'âge va augmenter. Elle ne pourra donc pas se passer de travailleurs migrants comme c'est déjà arrivé dans le passé.
Et pas seulement pour des petits boulots.
Mais c'est clair, dans le Guardian, j'ai lu l'interview du secrétaire d'État à la santé britannique. Il regrette la politique migratoire qui fait qu'on refuse l'entrée sur le territoire de médecins, infirmiers ou aides-soignants, alors qu'il y aurait 100 000 postes vacants au National Health Service, les services de santé britanniques.
Oui, on le voit, le vieillissement de la population, les déserts médicaux, tout ça c'est déjà en train de se produire dans nos campagnes.
Et pour essayer de résoudre ces deux problèmes, migratoire et de vieillissement, un projet européen existe depuis 2014 dans les Pyrénées. Pour ceux qui maîtrisent mal la géographie, c'est la chaîne de montagnes qui sépare la France de l'Espagne. Ce programme, c'est le POC-TEFA, une structure qui propose la prise en charge complète d'une formation et du permis de conduire à des mineurs non accompagnés. Depuis 3 ans, 25 emplois ont été créés. Maintenant, il y a un cuisinier malien tout juste majeur dans un restaurant de montagne. Et d'autres ont repris des entreprises qui allaient disparaître avec la retraite du patron.
L'Europe a d'ailleurs conscience de ce manque de main-d'œuvre. C'est pour cela aussi qu'elle encourage la migration étudiante, Alice.
L'Europe, c'est LA destination des étudiants internationaux. Ils étaient 2,4 millions en 2018, un chiffre qui a augmenté de 23% en à peine 5 ans. Plus de la moitié de ces étudiants choisissent les universités et écoles de Russie, du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne. Étudier sur le continent, c'est s'assurer de bons diplômes ainsi qu'un visa étudiant, premier pas vers la nationalité européenne. Dans un article de la BBC, Modupe, une Nigériane, raconte qu'elle s'est inscrite en doctorat aussi et surtout parce que ça prolongeait sa durée légale sur le territoire. Cette jeunesse, on en a besoin. On l'a dit pour travailler, mais aussi pour s'enrichir socialement, culturellement. L'accueillir fait partie des valeurs fondamentales que l'Union européenne défend dans l'article 3 du traité de Lisbonne signé en 2007. Je cite « L'Union offre à ses citoyens des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile et d'immigration. »
Alice Rougeat, merci. On peut vous retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux avec votre chronique « La bonne nouvelle européenne ». Accent d'Europe, Françoise Grelot était à la réalisation aujourd'hui. Retrouvez-nous sur notre site internet ou via notre podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain !